Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Le marché de l'emploi est bouleversé en Calédonie. La situation s'est gravement dégradée évidemment après les émeutes insurrectionnelles. Quels dispositifs sont mis en place pour relancer ou tenter de relancer le marché de l'emploi? Où en est la question de la prise en charge des différents régimes de chômage? C'est ce dont nous allons parler avec nos trois invités. Christopher Gigès, qui est membre du gouvernement en charge notamment de l'emploi. Tony Dupré, vice-président de la COGETRA. Et Julien Barras, qui est président de la commission emploi-formation du MEDEF. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'en venir aux dispositifs mis en place, aux questions qui se posent, peut-être revenir sur un état des lieux de la situation de l'emploi. On a parlé, Julien Barras, de quelques 11 000 emplois détruits depuis les émeutes. Est-ce que ces chiffres sont aujourd'hui confirmés, voire affinés?
Oui, d'après les informations issues de la CAFAT, on a perdu 11 000 emplois depuis les émeutes, 13 000 depuis un an et demi dans le secteur privé. Effectivement, ces pertes d'emplois sont en lien avec la chute de l'économie, et sachant qu'en plus, c'est ces emplois qui financent une partie du système économique.
Donc c'est une situation qui reste très très délicate.
Oui, très, très délicate pour les salariés et pour les entreprises.
Tony Dupré, une réaction, ces chiffres on les connaît, mais ça reste difficile.
Tout à fait, on les confirme, on les connaît. On note comme une baisse de demandeurs pour le chômage partiel, mais enfin la situation reste toujours critique, avec des perspectives compliquées à trouver, à définir. Il y a un gros travail qui est actuellement effectué en lien avec le gouvernement, mais effectivement il faut maintenant donc voir plus loin, notamment tenter de tout doucement de faire face et surtout de ramener les gens dans l'emploi.
Alors, il y a un travail qui est fait avec le gouvernement. Christopher Gigès, on sait que le chantier est très, très vaste. Est-ce qu'il y a des priorités? Est-ce qu'il y a des choses que vous essayez de faire avant le reste? Parce qu'il faut bien prioriser les choses, ou vous arrivez à tout faire ensemble?
On essaye de tout faire ensemble parce qu'il y a des priorités partout en ce moment. Enfin, ce qu'on a déjà essayé de faire maintenant depuis le début des émeutes, c'est de maintenir les personnes dans l'emploi. C'est ce qui a été évoqué par Monsieur Barras sur la question du chômage partiel qui devait normalement s'arrêter en août de l'année dernière, mais on s'est battu avec les partenaires sociaux et on s'est battu ensemble. Et c'est comme ça qu'on a réussi à le faire prolonger jusqu'à juin 2025. Ça a permis de maintenir les compétences au sein des entreprises. Mais aujourd'hui, ce chômage partiel, il va s'arrêter en juin et on est en train de travailler sur des dispositifs toujours de maintien dans l'emploi et de retour dans l'emploi pour les personnes qui ont été malheureusement licenciées. Et parallèlement à ça, bien entendu, il y a des dispositifs qu'on peut mettre pour soutenir l'emploi. On travaille activement là aussi avec les partenaires sociaux et avec les différents partenaires pour relancer l'économie calédonienne, parce que c'est en relançant l'économie calédonienne qu'on va pouvoir se passer du chômage partiel, du chômage total et de ces différents dispositifs. Les discussions avec l'État sont très dures pour financer ces différents dispositifs, et il faut que l'État comprenne, même s'il nous soutient, que notre principal intérêt à nous, c'est de sortir de ces dispositifs et de relancer l'économie calédonienne. Et je crois que tout le monde en Calédonie partage ça.
Des discussions qui sont régulières avec le gouvernement.
Oui, quasiment tous les soirs, on peut avoir des visios avec les représentants de Bercy. On a Manuel Valls qui revient très prochainement et on aura l'occasion de discuter de la partie économique. On essaye malgré tout de mettre en place des dispositifs qui favorisent la reprise de l'emploi. Je l'ai dit, on travaille avec les partenaires sociaux sur la question des charges patronales, peut-être pour faire revenir les gens vers l'emploi, mais c'est quelque chose qui est encore en cours de discussion. Par contre, il y a des choses qui sont votées, notamment le passe-emploi, qui est où on a voulu simplifier le chèque emploi-service et le dispositif emploi simplifié, qui est en fait une extension à tous les secteurs d'activité du chèque emploi-service pour une période de un an. Mais on a la volonté de favoriser cette flexibilité, mais que ça ne devienne pas une précarisation non plus des personnels.
Dans quel état sont les chefs d'entreprise, Julien Barras? Parce que leur préoccupation, en tout cas ceux qui rencontrent des difficultés financières, c'est de préserver au moins un certain nombre de compétences au sein des entreprises. Il y a un seuil sous lequel elles ne pourront pas descendre?
Oui, les entreprises doivent préserver leurs compétences. Effectivement, donc le système de chômage partiel spécifique a été bénéfique jusqu'à fin juin. On espère qu'une nouvelle mouture du chômage partiel de droit commun pourrait être adaptée et pourrait offrir un peu plus de visibilité jusqu'à au moins fin d'année pour garder les compétences, pour maintenir des gens dans un emploi, certes, différent, mais dans l'entreprise. Parce que l'entreprise a besoin de beaucoup de flexibilité. Là, le marché est très compliqué, avec des hauts et des bas. De niveler l'entreprise vers le bas, c'est très compliqué aussi pour la structure, mais aussi pour faire face à ses demandes. Le Pass Emploi, c'est un super dispositif là, qui va simplifier les démarches pour les employeurs, qui va sécuriser aussi le contrat pour le salarié, parce que tout se passe en ligne. Nous, ce qu'on voit aussi, ça va simplifier les flux et donc offrir plus de réactivité. Donc ça, c'est très très bien. On met un fait, c'est que les agences d'intérim aujourd'hui, qui sont un amortisseur social, hein, qui font un lien entre des actifs expérimentés qui travaillent et des employeurs en recherche, ne doivent pas appliquer les mêmes taux de précarité aux salariés. Donc c'est vrai que s'il pouvait y avoir un ajustement entre les Pass Emploi, les CDD et les taux de précarité des agences d'intérim, ça serait bénéfique.
Une petite mesure technique, une réaction, Tony Dupré.
Oui, deux choses. Donc, sur le chômage partiel qui va se terminer, comme l'a dit Sophie Vincent, au bout d'un moment, il faut. On le sait tous, hein, l'objectif, c'est
le vraiment. Chômage partiel spécial exaction. Hein.
Attention, ouais. Bien précisé, spécifique spécial exaction. Donc, l'idée est bien de ramener les gens au travail, ça ne va pas être facile. Donc, deux choses. Sur d'abord le volet qu'évoquait Julien. Garder les compétences, monter en compétences. Nous, on trouve que ce volet-là, il n'a pas été assez exploité en termes de formation. Bon, c'était pas évident, mais on trouve qu'on aurait pu beaucoup mieux faire à ce niveau-là.
En termes de formation, c'est-à-dire ?
Ben, de profiter de l'occasion pour faire monter en compétences le salarié ou celui qui voulait une reconversion. Surtout qu'on a des structures qui existent, hein, comme le FIAF, hein, qui avait. D'ailleurs, relancer son dispositif relance pour l'occasion. Donc, on trouve que, comme pour le Covid, c'est ce volet formation qui, pour nous, est hyper important. Hein. Il ne faudra pas le négliger pour la suite. Ensuite, sur le Pass Emploi, simplifié, oui, nous, on veut bien. Hein, mais au bout d'un moment, on le rappelle qu'en 2017, on était opposé par principe au DES, au dispositif en plan simplifié. Pourquoi ? Pour nous, ça reste de l'emploi précaire. Voilà. Ensuite, sa mise en place là va nécessiter un coût qui pour l'instant n'est pas financé. Demandera aussi à la CAFAT des moyens notamment humains. Et là, nous on tire un peu la sonnette d'alarme parce que la CAFAT sont beaucoup sollicités hein, depuis plusieurs mois maintenant, notamment en termes de travailler donc sur des dispositifs qui réclament des simulations. Et cet aspect numérique des choses, parce que là, on part sur un volet numérique, hein, avec toutes derrière les conséquences derrière, même en termes de fracture numérique, je pense qu'il y aura un gros travail d'accompagnement à prévoir, à faire, hein, notamment auprès des salariés.
Alors, toutes ces réserves que vous avez évoquées, j'imagine que vous les avez aussi anticipées, Christophe Urgigès ?
Oui, de toute façon, on est sur un avant-projet de loi de pays. Et on avait déjà travaillé un petit peu en amont sur ce dispositif et on modifiera ce qu'il faudra modifier. On accompagnera la CAFAT sur les coûts supplémentaires qui seront mis. Enfin, vu ce que met la Nouvelle-Calédonie auprès de la CAFAT en ce moment, je pense qu'on peut intégrer quelques éléments. Ensuite, il va falloir que la CAFAT aussi joue davantage le jeu. Et je le dis sur en termes de simplification, en termes d'anticipation, en termes d'aide aux entreprises, je considère qu'il y a un gap à passer. Il y a un gap à passer et je crois qu'il faut qu'on arrive à tous tirer dans le même sens, partenaires sociaux, collectivités et CAFAT, pour qu'on arrive à une bonne situation. Et Tony a totalement raison sur la question de la formation et j'irai plus loin même au niveau de la reconversion sur des emplois. C'est le sens de la conférence qu'on va organiser fin avril au niveau du gouvernement, qui va être une conférence fiscale et sociale avec une journée qui va être dédiée à l'emploi. On va être faire un état des lieux de la situation de l'emploi en Nouvelle-Calédonie de manière affinée. Qu'est-ce qu'il y a eu comme impact au niveau des salariés, au niveau géographique, avec un retour des différents professionnels. Et on va travailler avec les partenaires sociaux, là encore, sur comment on améliore les services de placement, parce qu'on a c'est une délégation qui est donnée aux provinces aujourd'hui. Comment on met en meilleure adéquation les offres et les demandes d'emploi, parce qu'il y en a qui passent pas par des services de placement. On travaille sur un genre de logiciel qui est un Tinder pour l'emploi, où on va pouvoir mettre les offres et les demandes et les gens vont pouvoir matcher, parce qu'il y en a qui vont pas sur ce type de choses. Et on va travailler sur des dispositifs. Moi, je crois beaucoup à l'alternance, beaucoup, beaucoup à l'alternance, qui est une très belle formation et qui peut vraiment engager sur l'emploi, mais aussi des formations professionnelles et des reconversions possibles. Mais ça se fait ensemble. Ça se fait vraiment ensemble.
Tony Dupré, puis après.
Sur les services de placement, c'est un enjeu majeur. Depuis des années, on le sait. Malheureusement, donc les provinces restent arc-boutées sur donc leurs compétences. J'ai mon service de placement, donc il y a aucune logique pays au niveau de l'information auprès donc des demandeurs d'emploi. Et nous, on espère tous que dans le futur statut, on pourra enfin avoir donc une structure donc pays qui va regrouper l'ensemble donc des demandeurs d'emploi et des offres d'emploi.
Alors, à vous entendre, quand même, on a l'impression que cette crise donc, qui touche et qui impacte très fortement le marché de l'emploi oblige à repenser les choses différemment, bien évidemment, et peut-être à les transformer par rapport à ce qui existait. Les besoins des chefs d'entreprise ont peut-être évolué, Julien Barras, le marché de l'emploi va évoluer, donc il faut trouver vraiment des nouvelles manières de fonctionner, de s'adapter, d'être agile, comme on le dit de plus en plus souvent.
Oui, c'est inévitable. Le marché de l'emploi, le marché en général va évoluer, va s'ouvrir de nouveaux secteurs, effectivement, sur des piliers qui existent déjà. Certainement la mine, la métallurgie, le tourisme, certainement à développer aussi. L'économie numérique est importante. Aujourd'hui, des paradis numériques, c'est la Californie. C'est la zone de Sophia Antipolis, des endroits où il fait beau, où la vie est agréable, et c'est exactement le cadre de vie qu'offre Nouméa. Donc je pense que l'économie numérique, en plus les infrastructures numériques ici sont performantes, donc pourraient se développer. Et je reviens sur l'aspect formation, parce qu'effectivement on avait essayé de pousser, mais en vain, de pouvoir servir de ce temps de chômage partiel pour pouvoir bénéficier de ces fonds pour former en partie les salariés aussi, parce que la formation des salariés, c'est indispensable à cette évolution. Mmh. On parlait de fracture numérique, effectivement, aujourd'hui, quasiment tous les... un salarié sur deux a un smartphone pour le travail, doit saisir des informations ou envoyer des emails.
On est vraiment, Christopher Gégès, au-delà de la crise économique, dans une transformation du marché de l'emploi. Elle était déjà sous-jacente en quelque sorte, mais elle a été accentuée par la crise.
Oui, clairement. On avait déjà des problèmes avant le 13 mai. Le 13 mai a été un cataclysme profond pour de nombreuses entreprises et de nombreux salariés qui ont perdu leur emploi. Vous l'avez dit, il faut qu'on soit agile sur les dispositifs qu'on met en place. Juste avant de venir à votre émission, j'étais avec l'AFD sur l'étude que nous avons demandée sur la création de nouvelles filières en Nouvelle-Calédonie et sur des filières prioritaires et des filières d'avenir. Je crois que ça a été très demandé par les différents acteurs économiques et sociaux, mais on a eu tendance longtemps en Calédonie, il y avait un élu qui avait une idée et qui disait on va faire ça en Calédonie, et finalement ça nous coûtait plus cher que ça nous rapportait, et on se trouve dans une crise des dépenses publiques qu'on connaît et qu'on a pu connaître. Aujourd'hui, il faut qu'on pose les filières qui sont rentables. Je souscris, je suis en charge du numérique, je ne vais pas dire le contraire sur le fait qu'on a intérêt à développer massivement le numérique, qui a été l'année dernière le secteur le plus créateur d'emplois en métropole. Mais il faut qu'on mette des critères, c'est-à-dire que c'est quoi le coût-opportunité sur les filières qu'on crée, c'est quel type d'emplois qui peuvent être créés, c'est quelle formation qu'on met en face. Mais j'ai envie de vous dire, votre question était, le marché de l'emploi va sensiblement évoluer. La Nouvelle-Calédonie va sensiblement évoluer dans son ensemble, au niveau sociétal, au niveau économique, au niveau social. Et c'est bien ça qu'aujourd'hui, on essaye de construire. Vous demandiez tout à l'heure si c'est une priorité parmi les priorités. On a aujourd'hui énormément de priorités et il faut que cette crise, qui a été d'une violence inouïe pour la Nouvelle-Calédonie, devienne une opportunité dans une période où on a des gens qui vivent encore dans des situations extrêmement complexes. On travaille ensemble également sur la question du pouvoir d'achat et de la structure des prix en Nouvelle-Calédonie. C'est là aussi une priorité importante à travailler et à prendre des mesures qui sont des mesures de court terme immédiates, mais aussi des mesures structurelles pour la suite.
Denis Dupré.
Là, je souscris sur le fait que la crise économique était bien avant le 13 mai.
Elle existait, terriblement aggravée au centuple.
Bien sûr, même en termes d'emploi, on était déjà sur une précarisation latente, hein, avec beaucoup plus de CDD que de CDI. Donc, l'occasion, là, nous est donnée de repartir donc, sur un modèle vertueux, hein, mais qui prenne en compte pour nous, hein, cette triptyque-là, formation, emploi pérenne derrière CDI, quoi. Hein. Mmh. Et ne tombons pas non plus à vouloir trop simplifier les choses. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. L'entreprise, bien sûr, doit être gagnante, mais au sein de l'entreprise, il y a le salarié. Il faut que le salarié se retrouve dans tout dispositif qui sera mis en place. Mmh. Nous, c'est à cela qu'on veillera, quoi.
Hein. Julien Barras, vous partagez ce point de vue ?
Oui, bien sûr. De toute façon, le 13 mai a été un cataclysme, un catalyseur d'une crise qui était déjà là, qui s'est aggravée par des destructions de biens aussi. Mais effectivement, ben la nouvelle économie va se construire sur ces nouvelles bases. Le système était peut-être à bout de souffle avant, et il doit se reconstruire.
Alors, ce que disait Tony Dupré, je le caricature un tout petit peu, c'est que le salarié ne doit pas être une variable d'ajustement, y compris dans les périodes de crise.
Vous savez, les plus belles entreprises ne sont pas celles qui changent leur salarié toutes les 5 minutes. Les plus belles entreprises sont celles qui ont des salariés qui sont là depuis 30 ans. Et quand ils partent en retraite, on se dit, mince, comment on va faire pour remplacer Marcel?
Non, mais parce que Julien, moi je veux dire par là, c'est que nous, depuis le départ, depuis le début de cette crise majeure du 13 mai, les syndicats salariés ont prouvé, hein, leur sens des responsabilités.
Tout le monde dans cette crise, enfin voilà.
Voilà, mais nous particulièrement, je le dis parce qu'on est allé par exemple sur des nouvelles mesures, hein, qui vont être prochainement adoptées par le Congrès, comme simplifier les procédures en termes d'abandon de poste, ou revoir le dispositif de carence concernant la maladie. C'est pas des sujets évidents, hein, pour nous de manière générale. Donc on fait les efforts nécessaires. Donc au bout du compte, nous, voilà, on est là aussi pour préserver l'intérêt du salarié.
Oui, je crois qu'aujourd'hui tout le monde tient dans le même sens, Christopher Gilles, même si les positions peuvent évidemment diverger sur certains points techniques, notamment.
En tout cas, on se voit assez souvent pour partager les choses. Enfin, j'espère qu'il me contredira pas sur ce point-là, mais bien sûr qu'on peut avoir des désaccords. Bien sûr. Et moi, je rejoins ce que disait Julien. Enfin, j'ai vu des chefs d'entreprise qui ont été dans l'obligation de licencier certains de leurs salariés qu'ils avaient depuis des années. Mais ça les touche dans
viscéralement,
le... Viscéralement. Ensuite, bien entendu, il y en a qui peuvent profiter de la situation, comme il y a des salariés qui peuvent profiter de la situation. Mais le plus grand nombre, à la fois comme les salariés et les entreprises, jouent le jeu. Et moi, je veux dire vraiment la grande responsabilité des partenaires sociaux dans cette crise. On travaille bien ensemble, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais je pense que le fait de montrer qu'on est en capacité de faire avancer ensemble la Nouvelle-Calédonie, c'est un point qui est extrêmement important, avec les difficultés qu'on connaît.
Le gros souci, c'est le temps. C'est le temps. Il y a deux facteurs majeurs.
Il faut aller vite,
mais avec un manque de visibilité, notamment financière. Le souci, il est là. Donc, il faut aller vite, mais il ne faut pas non plus confondre vitesse et précipitation. Sur les dispositifs qui sont présentés, il nous faut, nous, ce qu'on ait le temps aussi d'échanger, notamment nous, au sein de la COGETRA, mais aussi avec nos partenaires. Hein. D'ailleurs, le texte passe-emploi sera présenté la semaine prochaine au sein du Conseil de dialogue social, où on va échanger avec aussi le collège patronal, quoi. Il faut aussi... la difficulté, elle est là. Il y a urgence. Et en même temps, il faut prendre le temps de bien poser les choses et de voter les bonnes mesures par la suite, quoi.
Alors, on a évoqué tout à l'heure le chômage partiel, spécial exaction. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le chômage total, parce que là aussi, il y a des préoccupations majeures avec le nombre de personnes qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi. On sait, Christopher Gilles, que c'est aussi la question de son financement qui se pose. Est-ce que sur ce régime-là spécifique, il y a des pistes à l'étude ?
En fait, on a... Moi, je considère vraiment que la question du chômage est vraiment un sujet partenaires sociaux. Et donc, je les ai réunis dès le début pour dire discuter entre vous, déjà, de savoir est-ce qu'on doit augmenter le chômage de droit commun, enfin, chômage total de droit commun en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu des propositions...
Vous voulez dire le montant, hein,
Oui, le montant, parce qu'on est aujourd'hui à 66% de mémoire du SMG. On vit difficilement en Nouvelle-Calédonie. Là, on a des pistes de travail qui évoluent plus vers un renforcement du chômage partiel de droit commun et un dispositif de retour à l'emploi. Rien n'est acté pour le moment, mais je veux vraiment qu'il y ait cette discussion entre partenaires sociaux, parce que les entreprises connaissent mieux les salariés, les salariés connaissent mieux les entrepreneurs que nous qui sommes dans un bureau et qui ne mettons pas le pied dans une entreprise. Ensuite, s'il n'y a pas d'accord, je l'ai toujours dit, je leur ai toujours dit, on prendra nos responsabilités et on tranchera. Mais le temps de la discussion, Tony l'a dit, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des urgences, mais il faut qu'on soit en capacité de prendre les bonnes mesures. Et moi, s'il y a un accord entre partenaires sociaux sur un dispositif, c'est ce que j'ai commencé à faire, je le défendrai auprès de l'État. Dans tous les cas, le prêt qui a été obtenu pour la Nouvelle-Calédonie et le budget qui est actuellement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie prévoit une enveloppe pour la question du chômage et du chômage, du chômage partiel.
Alors je me tourne vers les partenaires sociaux, Julien Barras, sur cette question du chômage total. Aujourd'hui, les discussions avancent vraiment, il y a des propositions qui sont faites de part et d'autre?
Oui, ça discute, on échange sur le sujet, mais c'est vrai que nous, on privilégie quand même le retour à l'activité. Tony l'a dit, il faut que la reprise économique soit là. On pense qu'un salarié, il est plus profitable à l'économie quand il travaille plutôt que quand il est indemnisé à rester au chômage. C'est le vrai sujet, hein, c'est un vrai sujet. Mais bon.
Tony Dupré.
Oui, effectivement, et en plus tout ça, en plus dans un contexte de vie chère qui s'accentue. Hein, malheureusement, c'est maintenant le quotidien donc de tous les Calédoniens, en dehors des salariés, des retraités, de la population générale, avec cette inflation des prix qui est majeure, quoi. Donc là aussi, comme quoi il faut en parallèle donc en même temps s'occuper de tout ce qui va avec, quoi.
Mais alors justement, Christophe Rogès, vous avez réuni les acteurs de la distribution hein, pour étudier ces questions de cherté de la vie. Le travail ne fait que commencer. Qu'est-ce que vous en attendez?
Ça va au-delà de ça. Enfin, c'est la réunion qu'on a fait cette semaine avec les acteurs de la distribution, de l'importation, c'est sur une des mesures, sur un élargissement des prix mini. J'ai demandé que les prix mini soient doublés avec une baisse de 20%. Dans le contexte actuel, je conçois que ça soit compliqué. Néanmoins, le gouvernement prendra sa part sur ça. Mais c'est un travail qu'on mène là aussi avec les différents acteurs économiques, parce que il y a la question vraiment des prix, et je veux vraiment qu'on s'attaque à la structure des prix et qu'est-ce qui fait que la vie est chère en Nouvelle-Calédonie. Il y a une chose qu'on ne va pas régler du jour au lendemain et qui s'aggrave, c'est qu'on n'est pas assez nombreux en Nouvelle-Calédonie pour réaliser des économies d'échelle. Et il y a une autre chose sur laquelle j'évoquais tout à l'heure la convention fiscale et sociale. Comment on arrive à baisser le coût du travail en Nouvelle-Calédonie et que ça permette d'augmenter les salaires des salariés et d'augmenter la compétitivité des entreprises, avec des travaux notamment sur la fiscalisation des cotisations sociales sur des impôts à assiette large. Donc on va se réunir pendant 4 jours où on va aborder l'emploi, le coût du travail et la fiscalité. S'il faut se réunir 5, 6, 7, 8 jours, on se réunira 5, 6, 7, 8 jours.
Un conclave.
On va faire un conclave, nous aussi, mais il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Il y aura des désaccords, il y aura forcément des désaccords. Mais ce que disait Tony tout à l'heure, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Moi, je souhaite qu'il y ait une reprise économique, je souhaite que les travaux publics qui ont été prévus par l'État et financés par l'État commencent rapidement. On a une réunion demain à ce sujet avec le Haut-Commissariat, que les indemnités d'assurance soient versées rapidement pour qu'on puisse avoir des reprises d'activité sur ça, qu'on revoie le modèle au niveau de la Nouvelle-Calédonie sur la structure du coût du travail et de la répartition de la richesse créée, et j'insiste sur le créer, au sein de l'entreprise. Je suis pour que les entreprises gagnent beaucoup d'argent en Nouvelle-Calédonie, que les actionnaires soient justement rémunérés, mais il faut que les salariés, au sein de l'entreprise, quand il y a de la richesse créée, puissent aussi avoir de l'intéressement, de la participation, et ça, c'est vraiment ce contrat social qu'on doit passer entre nous.
Julien Barras, vous souscrivez?
Oui, on souscrit. La baisse du coût du travail est essentielle hein, pour l'économie, pour la reprise de l'économie, la fiscalisation du travail aussi, la limiter et plutôt travailler sur la consommation, et ce sera profitable à tout le monde, je pense. Effectivement, préserver certains prix minimums, c'est indispensable dans cette conjoncture-là qui va s'annoncer compliquée, mais le travail, c'est quand même le plus important, relancer l'économie, et donc on refinancera par le travail.
Tony Dupré.
Oui, la baisse du coût du travail, jouer sur les cotisations sociales. On sait ce qu'on a aujourd'hui. C'est demain les pertes de milliards à compenser. Comment on les compense? Là aussi, on a un travail à faire. On parle de fiscalité, laquelle? Fiscalité indirecte, TGC, CCS, pour nous, il n'en est pas question. On ne va pas aggraver encore la situation en termes de pouvoir d'achat. Donc c'est tout un travail qu'on aura à faire.
Donc il y a des points de discussion encore. Hein, comme
bien sûr, non, mais
c'est dommage que Tony mette des postures, c'est, que ce soit quand il dit que c'est, il n'en est pas question. Je pense qu'il y a beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup de choses à étudier et il y a quelque chose qui manquait en Nouvelle-Calédonie et j'ai souvent la discussion avec eux. C'est la donnée. C'est la donnée qu'on peut, enfin les chiffres et les simulations.
Les fameuses data.
La fameuse data. Et c'est vrai que, enfin, prendre des mesures fiscales ou des mesures sur le coût du travail sans simulation réelle et comment ça va profiter soit aux entreprises, soit aux salariés, c'est sûr que ça serait irresponsable de ma part et de la part du gouvernement et des élus du Congrès. Donc, en tout cas, sur la convention fiscale et sociale, de notre côté, on l'abordera. Sans aucune posture, sans aucune idéologie, mais avec un pragmatisme qu'on sort gagnant-gagnant de cette convention.
Alors, Tony Dupré, posture ou pragmatisme ?
Je vais prendre
visiblement, il faut choisir.
Je vais prendre Christopher Romo. Par exemple, à partir du 1er avril, on aura donc une hausse de 1% de la CCS. Ce qui était prévu dans le cadre du PS2R, c'est que ce soit compensé par une baisse des cotisations.
Ce que fera le gouvernement demain au Congrès avec le dépôt d'un amendement.
Mais là aussi, on aurait aimé disposer de simulation. Voir si réellement le salarié se retrouve, parce qu'on peut dire, parce qu'aujourd'hui, un point de CCS, on ne sait pas réellement ce que ça vaut aujourd'hui.
4 milliards d'euros.
Bon, voilà.
Non, mais sur cette chose-là, et Tony a raison, c'est-à-dire que sur ce point de CCS, l'État nous met une pression démentielle sur les différentes conditions et on a obtenu cette baisse de cotisation sociale au prix de nuits passionnantes avec Bercy. Vous pouvez même pas imaginer comment c'est agréable et donc la vraie discussion aura lieu sur la conférence fiscale et sociale, mais ce qu'on présentera et Thierry Central le présentera au moment de l'examen du budget demain, ça sera une baisse des cotisations sociales sur la tranche 1, où 90% des salariés auront un gain en pouvoir d'achat. De toute façon, j'avais prévu d'envoyer cet amendement aujourd'hui aux différents partenaires sociaux avec les simulations pour qu'ils en soient informés. Mais là-dessus, il a raison. Au moins, j'ai le pragmatisme de dire que sur ça, il a raison.
Et ce n'est pas une posture.
Voilà.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission pour nous parler de cette question de l'emploi, question évidemment difficile. On pourrait aborder plein d'autres secteurs parce qu'on parle de nouvelles filières éventuellement, de nouveaux secteurs à lancer. On a parlé de la formation professionnelle, mais pas forcément de la formation initiale qui doit aussi peut-être accompagner tout ce bouleversement du marché de l'emploi. Mais on aura l'occasion de faire d'autres émissions là-dessus. Merci à tous les trois d'avoir participé à ces Jeudis de l'économie. Qui seront réécoutes dans quelques instants sur notre site internet rrb.nc. Bon après-midi.
Merci à vous.
Merci à vous.
C'était les Jeudis de l'économie avec la BCI.
Face aux défis d'aujourd'hui et à ceux de demain, la BCI est à vos côtés. En agence ou à distance, nous vous accompagnons pour trouver ensemble des solutions adaptées à votre situation. Report d'échéance, financement, épargne, assurance. BCI. Ensemble, voir plus loin.